Alors, on recommence la dernière partie de jour avec Émilie H. Émilie est philosophe et maîtresse des conférences au département de philosophie et de l'université Paris Nanterre Sophia Paul. Et aussi, en 2016, je saute jusqu'en 2016, il y a plein de choses à lire. En 2016, Émilie, à mon avis, elle a fait un gros boulot, et surtout devant la France, qui c'était un boulot énorme et surtout incroyable, de publier Reclaim, qui est un recueil de textes écoféministes, un corpus de discours théoriques, donnant davantage de visibilité au combat et publication d'auteurs anglophones engagés dans ce mouvement tels Susan Griffin, Karen Merchant, Vandana Shiva, Starhawk ou Rosalie Bertel. Ça, c'est textes qui n'ont été jamais traduits en France depuis des années. Émilie, elle a fait ses boulots et c'était un énorme boulot, et surtout pour la France qui a besoin surtout plus que d'autres pays, d'être un peu plus proche de cette théorie-là de l'écoféminisme, donc ça fait du bien. Voilà. Et aujourd'hui, Émilie, elle va nous parler. Elle va faire une présentation et atelier des réflexions autour de l'animisme de David Abraham. Donc, Émilie, merci pour être venue et je te passe la parole.
Merci. Donc, effectivement, je ne vais pas vous parler d'écoféminisme, je vais vous parler d'une proposition. Je voudrais partager avec vous une proposition philosophique d'un auteur qui est un peu marginal dans tout le gros corpus de philosophie environnementale. Je ne sais pas, anglo-saxon, qui s'appelle David Abraham, A-B-R-A-M, pas Abraham, mais Abraham, enfin à la française, mais sinon, il y a d'autres qui peuvent le dire mieux que moi, qui a écrit un texte qui date, je crois, de 94, qui s'appelle, en tout cas, qui a été traduit en français par le titre suivant, « Comment la Terre s'est tue », qui est un texte absolument magnifique, et qui me semble, qui est un des textes qui me semble les plus intéressants et philosophiquement et même politiquement, de ces 10, 20 dernières années. Donc, je vais essayer de vous rendre compte d'une manière à peu près compréhensible, pas trop technique, mais en même temps pas trop non plus indigente de sa proposition, pour que vous la... qu'on puisse quand même un tout petit peu en avoir la substantifique moelle, ce qui n'est pas forcément évident, et j'espère que je ne vais pas trop le trahir, mais bon, au moins je vous dirai quelques mots et ça sera le principal. Donc la thèse que propose ici Abraham est tout à fait, on pourrait dire, hétérodoxe, elle est assez étonnante et voire... C'est vraiment un apax, en réalité, on pourrait dire, au sein de l'histoire de la philosophie, et notamment l'histoire de la philosophie environnementale. En gros, pour y arriver, on pourrait dire la chose suivante. Il va défendre, vous allez voir comment, je cherche pas... on peut faire un petit teasing, on va le faire tout au long, mais il défend l'idée... il essaye de démontrer, techniquement et philosophiquement, que nous aussi, c'est-à-dire nous, Européens et descendants d'Européens, nous sommes animistes. Donc il revient, il prend un pas de côté complètement par rapport à d'autres thèses, évidemment toutes les thèses de la modernité, notamment d'Escola ou d'autres, qui diraient nous sommes naturalistes, ou nous ne sommes plus animistes, et tous les autres sont animistes. Donc c'est pas du tout le point qu'il fait dans ce texte-là, mais il fait donc cette proposition tout à fait étonnante, et je voudrais essayer de vous restituer un tout petit peu les différentes étapes et comment il arrive à proposer cela. Animiste, je vais en une seconde de mots, puisque vous en a parlé plein de fois, évidemment vous vous doutez que il prend une version à la fois tout à fait positive et restaurée de ce terme-là. Il en prend aussi une version plus comment dire, avec une définition plus minimale et différente de celle de, notamment de Descola, qu'il attribue que à certaines populations sur Terre. Le sens qu'il lui donne, en fait, on pourrait prendre celui-ci que vous trouvez chez notamment un philosophe australien qui s'appelle Graham Harvey, qui est de dire l'animisme considère que le monde est plein de personnes dont certaines seulement sont humaines, hein, et que la vie est toujours vécue en relation avec les autres. Mais voilà, après vous verrez que voilà, on n'a pas besoin forcément de plus pour l'instant. Ce qui m'intéresse moi dans cette le geste philosophique que fait ici Abraham, c'est que ça fait une j'écoutais évidemment le très bel exposé de Sarah, et vous vous souvenez, à la fin de son intervention, elle insistait sur le fait qu'on pouvait en partie un peu douter de certaines formes de comment dire de même de volonté de détendre à certains individus ou certains non-humains des droits, etc., et en disant il y a la limite de cela, c'est que c'est toujours certains, et puis sous quels critères, c'est ceux qui ressembleraient peut-être évidemment le plus aux humains, et puis il y en a toujours qui sont dehors, en fait. Donc c'est ce geste de qu'on a souvent, qu'on peut trouver plein de fois en philosophie, notamment écologiste, de chercher à étendre à quelques-uns de plus le privilège de faire partie, on va dire, du cercle étroit, de ceux qui parlent, de ceux qui pensent, etc. Alors que lui fait le geste tout à fait inverse. Il ne cherche pas du tout à essayer d'étendre, de partir de nous en disant « mais nous qui sommes la raison », voilà, et puis on va essayer d'étendre aux autres, d'essayer de comprendre comment ça se passe. Il inverse la question en disant « mais pourquoi nous nous sommes coupés du monde vivant ? Pourquoi le monde entier est animiste jusqu'à aujourd'hui ? Et pourquoi nous ne le sommes pas ? Comment c'est possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il en fait une énigme, on va dire philosophique et technique, et il essaye d'y répondre, il propose une façon possible d'y répondre, et lui-même est le premier à dire que peut-être que sa proposition à lui ne sera pas la bonne, mais c'est pas grave, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et je trouve que ce renversement de point de départ est tout à fait intéressant philosophiquement et politiquement. Et pour cela, il part plus précisément, en fait, tout ce livre-là porte autour de la question du langage, qui est ce par quoi, notamment, qui est une des grandes coupures, on va dire, de notre exceptionnalisme humain, savoir que nous sommes ceux, évidemment, qui parlons et pensons, et puis il y a tous les autres, et parfois, les dauphins, ils parlent un peu, mais on en rajoute quelques-uns, mais on fait bien des... Il parle de cette question du langage, mais encore une fois, là, vous allez voir, en la thématisant, en la problématisant tout à fait différemment. À savoir que la question qu'il pose est la suivante, comment nous en sommes venus à penser que le langage était le propre de l'homme ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ou pour le dire dans ces termes, puisque Abraham est de tradition phénoménologique, comment nous sommes devenus sourds et aveugles au monde sensible dans lequel nous vivons ? Au sens où il part aussi du fait, il rappelle que évidemment cette culture occidentale avec 500 000 guillemets, évidemment a aussi des origines indigènes, qui est une autre façon de rappeler que notre naturalisme n'a pas toujours existé si tant est qu'il existe. Et la question encore une fois étant de savoir comment cette culture s'est retrouvée soustraite à cet enchevêtrement des sens humains, à la nature environnante qui caractérise toutes les cultures natives. Comment nous, matériellement, on va dire même, nous nous sommes retrouvés, nous avons pu nous soustraire à cela. Donc, la manière, on va dire, technique qu'il a d'essayer de rendre compte de cela, la proposition qu'il fait est la suivante, et que je vais essayer ensuite de vous déployer plus largement, c'est la suivante. La proposition qu'il fait, c'est, ça serait une des explications, parmi d'autres que l'on pourrait trouver, de cette soustraction, de notre retrait finalement des interactions avec le monde vivant et sensible, tiendrait à une invention d'une pratique auto-réflexive extrêmement puissante que nous avons produite et qui nous a détourné finalement et rendu insensible au monde qui finalement est désormais inanimé. Et cette pratique qu'il appelle cette pratique auto-réflexive extrêmement puissante, c'est l'invention de l'écriture. qui est voilà, une vieille coupure, c'est évidemment pas le premier du tout à revenir dessus, mais vous allez voir qu'il le reprend, il reprend cette question de cette immense coupure d'une façon voilà, tout à fait un petit peu différente de ce qu'on a pu voir précédemment. Hein. À savoir que là encore, il nous dit la chose suivante, nous n'avons pas inventé et développé le langage, en particulier la langue écrite au terme, on va dire, d'une ascension fulgurante, hein, nous plaçant au sommet de la civilisation, comme on a souvent tendance à le raconter, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mais nous avons fabriqué une technique qui nous a coupé des autres formes de langage, et plus généralement du monde vivant. Alors, comment il peut soutenir ça et comment il va essayer d'en rendre compte, c'est ce que je vais essayer de vous raconter dans ce petit temps qui m'est imparti. Il va le faire, c'est moi qui le dis comme ça pour que ça peut-être s'épisode, en quatre temps. Voilà. Bon, premier temps. Il part de la chose suivante, à savoir, je vous l'ai dit, qu'il se situe dans un courant de la philosophique de la phénoménologie. Et en fait, il va faire une interprétation animiste à partir de la phénoménologie pour rendre compte de la situation dans laquelle on est. Il s'appuie en particulier sur Merleau-Ponty pour proposer, vous allez voir, une définition de la perception comme ce qu'il l'appelle comme participation réciproque, hein, à partir de laquelle il pose cette question-là. C'est-à-dire qu'il part de manière très classique, on va dire, très classique pour la phénoménologie, pas pour toute la tradition philosophique, que le corps serait le véritable sujet d'expérience. Sans ce corps, c'est-à-dire sans ce corps, sans cette langue, ma langue physique, là, sans ces yeux, nous ne pourrions ni parler, ni entendre la voix de quelqu'un d'autre. Hein. C'est-à-dire sans contact, sans rencontre sensorielle, on ne connaîtrait rien, on ne penserait rien. Et c'est par ce corps vivant qu'il y a possibilité de la réflexion, de la pensée, etc. Hein. Où il le dit d'une autre manière aussi, ce corps-sujet, comme l'appelle Merleau-Ponty, n'a pas la capacité de pleurer, de rire, etc., mais est la capacité de rire, de pleurer. Ce corps s'entend, autrement dit, pour lui, et c'est le point par lequel il rentre dans cette question-là, et notre mode de contact avec le monde. Et c'est à partir de cette définition du corps comme sujet de l'expérience que donc Abraham propose cette manière de penser la perception, donc notre rapport au monde, perception visuelle, perception auditive, perception olfactive, etc., hein, comme participation réciproque. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? C'est très simple en réalité. C'est, pour prendre un seul exemple, il nous dit je ne peux affirmer par exemple que ma perception d'une fleur particulière, cette fleur-là qui est là, hein, je ne peux affirmer que ma perception de cette fleur-là peut exister sans, avec sa couleur, avec sa forme, avec son odeur, etc., hein, sans qu'elle soit entièrement, je ne peux ni dire qu'elle est entièrement causée par cette fleur, mais ni dire qu'elle vient uniquement de moi, hein, que c'est une vraie interaction entre mon corps s'entend et cet autre corps s'entend qui est là, hein. Il n'y a pas autrement dit de choses qui soient passives, pleinement passives dans l'événement pour lui de la perception. Mais il y a à la fois une sollicitation de mon corps par le sensible, c'est-à-dire par l'odeur, par la couleur, par la beauté. Pour plein de botanistes aujourd'hui, vous direz que les fleurs nous séduisent et cherchent à nous séduire aussi, donc voilà, par la beauté aussi des fleurs. Et à l'inverse, il y a une réponse de mon corps qui est sollicitée par cette fleur-là. Autrement dit, encore une fois, la perception, notre perception à tous, tout vivant, et interaction réciproque de part en part. Ce qui est une autre manière de dire, déjà, minimalement, finalement, que le monde est animé. Vous entendez que c'est son point de départ, finalement, aussi. C'est-à-dire, il le dit d'une autre manière aussi, de manière très simple encore, à savoir que l'expérience ordinaire que l'on peut avoir de décrire le monde, hein, et ce que nous faisons quotidiennement dans le monde, en mettant à la voix active ce avec quoi nous sommes en relation, hein, c'est-à-dire le soleil m'a brûlé, la vague m'a happé, j'ai été arrêté par la violence de la pluie, etc. Bon, autant de manières dans le langage ordinaire de rendre compte précisément de cette, encore une fois, cette interaction réciproque avec le monde, et c'est finalement pour lui la manière la plus précise et la plus économique, cette manière d'animer le monde ou d'en rendre compte d'une manière qui est animée, de rendre compte de l'expérience que nous en faisons. Or, nous dit-il, à l'inverse, si on part de cela, hein, savoir que c'est par notre corps sentant qu'on est en relation avec ce monde et que nous percevons, nous pensons, etc., à l'inverse, définir les autres êtres non humains comme des objets passifs ou des objets inertes, c'est nier sa capacité à entrer en rapport avec nous, c'est nier leur capacité à rentrer en rapport avec nous d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire c'est nier leur capacité à agir sur nos sens. Et en cela, nous dit-il, en définissant finalement comme une certaine tradition littéraire et philosophique européenne dans laquelle nous, voilà, nous, qu'on nous a appris à l'école et partout, en définissant finalement le monde environnant comme une série d'objets, nous coupons notre moi conscient, discursif, celui avec lequel nous pensons, de notre corps sentant. Nous coupons notre moi discursif et pensant, de l'expérience ordinaire que nous faisons quotidiennement avec nos corps. Il y a encore une dernière précision que je voudrais faire sur ce premier point, c'est qu'il y a une autre conséquence à cette définition du corps comme un sujet de l'expérience, immergé dans ce monde sensible, sur laquelle on reviendra plus tard, parce qu'elle est très importante, c'est qu'il nous dit aussi que si nous avons toujours la capacité de suspendre telle interaction, telle perception, par exemple, voilà, je marche dans la rue, j'entends le bruit, le chant d'un oiseau, mais à un moment donné, j'entends ou je vois quelque chose qui me happe, donc je passe à autre chose. Donc si on a évidemment toujours la capacité de suspendre telle interaction ou telle perception réciproque interactive, on ne suspend toujours nos participations avec le monde qu'en faveur d'autres participations. C'est parce que je suis passée à un autre contact, à un autre mode de relation que je suis passée, que j'ai arrêté d'entendre le chant de cet oiseau, que j'ai arrêté de suivre telle personne qui me parlait. Hein. Autrement dit, que nous avons effectivement la capacité de suspendre un mode particulier de participation, mais jamais de suspendre le flux de participation lui-même. Et ça sera très important pour la suite. Mettez-le dans un petit coin de votre tête. Voilà. Ça, c'était le point de départ par lequel rentrer dans cette question. Et à partir de cette définition de la perception, de cette définition phénoménologique de la perception, il propose, vous allez le voir aussi, il commence par reproposer ou redéfinir, on va dire, une définition phénoménologique du langage, qui évidemment, je vais aller rapidement, mais qui est une définition très différente de celle finalement à laquelle nous sommes souvent majoritairement habitués depuis, on va dire, au moins Saussure, hein, et même avant cela, Peirce, à savoir que c'est un système de signes symboliques, enfin quelque chose d'extrêmement abstrait. Et là encore, Abraham s'appuie sur Merleau-Ponty, qui va décrire le langage, ou plus exactement sa genèse, d'abord et avant tout comme un phénomène profondément charnel, enraciné dans l'expérience sensible.